Le journal, Benoît Bouscarel.
Bonsoir à toutes et à tous. 50 prisons avec sursis pour le policier qui avait tué un détenu évadé d'une balle dans le dos. Les faits s'étaient déroulés à Noisy-le-Sec en 2012. En première instance, Damien Sabounjian avait été acquitté au bénéfice du doute, mais le parquet avait fait appel, posant la question de la charge de la preuve en matière de légitime défense. Les explications de Marie-Pierre Véraud dans un instant. Les élus communistes font-ils tout pour faire enrager Jean-Luc Mélenchon? Le candidat de la France Insoumise le croit, qui dénonce un petit jeu joué par le Parti communiste visant à retarder le plus possible l'obtention de ses 500 parrainages en vue de la présidentielle. Le Parti communiste s'en défend ce soir, analyse de Sophie Delpont dans ce journal. L'Europe à plusieurs vitesses, le concept semble séduire à l'ouest, il est beaucoup plus critiqué à l'est où le spectre d'un éloignement de l'Europe utile inquiète. Et paradoxalement, c'est la Pologne qui s'oppose le plus bruyamment à ce principe de l'Europe à géométrie variable, analyse à suivre. Enfin, l'enquête du vendredi soir sur l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Il y a un mois, la Cour des comptes pointait un certain nombre de dérives dans son fonctionnement. Depuis, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris. Dossier complet dans ce journal avec Laetitia Saavedra. Damien Sabounjian, finalement condamné à 5 années de prison avec sursis. Le policier a été jugé en appel pour avoir tué un fugitif d'une balle dans le dos. C'était à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis en 2012. Et l'un des enjeux du procès en appel était de savoir si l'homme avait agi en état de légitime défense, comme l'affirmait la défense, ou s'il avait paniqué, selon le mot de l'avocat général. L'audience a montré la difficulté qu'il y a parfois à prouver la légitime défense. Marie-Pierre Véraud a suivi ce procès. C'est pour nous.
Un verdict accueilli par les applaudissements d'une foule venue en soutien de la famille Bentounsi. Très vite, les slogans fusent. Justice pour Amine. Damien, le policier coupable. La justice en est capable. Les gendarmes avaient interdit l'entrée de la salle d'audience aux nombreux militants du mouvement de lutte contre les violences policières qui s'étaient massés au palais dès 19h. Après près de 6 heures de délibéré, le jury a donc suivi les réquisitions. 5 ans avec sursis. Interdiction de porter une arme durant 5 ans. La condamnation doit avoir force de symbole et d'apaisement, avait déclaré l'avocat général, rappelant qu'il est coutume de dire que l'émotion l'emporte en première instance, le droit en appel. Mais les syndicats de policiers ne l'entendent pas de cette oreille. Loïc Lecouplier, d'Alliance Île-de-France, dit son incompréhension de voir une seconde cour d'assises infirmer le verdict d'une première, puisque Damien Sabounjian avait été acquitté à Bobigny. Normalement, ajoute-t-il, le doute doit profiter à l'accusé. Il y a un problème en France avec la légitime défense. Je redoute les conséquences. L'avocat du policier avait lui aussi dit que ce verdict était attendu par les policiers en France et qu'il ne resterait pas sans conséquences. Il ne se pourvoira pour autant pas en cassation. La famille d'Amine Bentounsi, par la voix d'Amal, sa grande sœur, dit-elle son soulagement, ajoutant que cette condamnation, il a fallu aller la chercher durant 5 années de bataille judiciaire. Victoire en demi-teinte, ajoute-t-elle. Dans la foule, le nom opine. Le problème, dit-il, c'est qu'il reste policier. Dans 5 ans, il aura une arme de nouveau.
Marie-Pierre Véraud, pas de pourvoi en cassation dans l'immédiat dans cette affaire, mais quelques jours de réflexion annoncée du côté de la défense. La politique, des relations décidément toujours cordialement détestables entre le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, le secrétaire national du PC, Pierre Laurent, a dû se fendre d'un communiqué pour assurer que, oui, conformément à leur accord, les élus communistes parrainent bien en masse le candidat de la France insoumise pour la présidentielle. Dimanche, Jean-Luc Mélenchon, qui ne dispose pas encore de ses 500 signatures, avait accusé le parti d'avoir donné des consignes à ses élus d'envoyer les parrainages le plus tard possible. Et derrière ce nouvel épisode de tension, Sophie Delpont, se cache bien sûr la question des investitures pour les législatives.
Les élus communistes ont mis leurs menaces à exécution pour montrer que Jean-Luc Mélenchon doit compter avec eux. Avec en toile de fond les investitures aux élections législatives et les rapports très compliqués avec les militants de la France insoumise. Il y a pourtant 850 élus PCF qui auraient pu parrainer en quelques jours seulement Jean-Luc Mélenchon, mais le cœur n'y est pas. On fait le boulot, il aura ses signatures lundi, promet un porte-parole du PCF. Mais les retours du terrain sont parfois très durs, selon lui, certains se plaignent de l'arrogance du candidat et de ses militants envers le parti communiste. Dans les rangs de la France insoumise, on parle d'un chantage au parrainage orchestré par la direction du parti communiste pour peser sur les négociations autour des circonscriptions qui restent au point mort. Et le PCF regrette que la France insoumise s'entête à vouloir présenter ses propres candidats partout sans tenir compte des élus communistes sortants et des circonscriptions qui pourraient être reprises. Beaucoup se sentent méprisés et craignent d'être aussi concernés bientôt par le grand coup de balai de la vague dégagiste.
L'enquête se poursuit dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen, même si Marine Le Pen a refusé de se rendre aujourd'hui à la convocation des juges, comme elle l'avait annoncé. Un deuxième assistant parlementaire du Front National a été mis en examen, on l'a appris aujourd'hui, Charles Ourcade, qui avait été présenté comme graphiste du parti à Nanterre. Assistant de l'eurodéputée Marie-Christine Boutonnet, il est suspecté d'avoir perçu indûment environ 37 000 euros bruts entre septembre 2014 et février 2015. Le Parlement européen s'est porté partie civile cette affaire. Unis dans la diversité des mots repris aujourd'hui à l'issue du sommet européen de Bruxelles par Angela Merkel, la chancelière allemande s'est appuyée sur la devise européenne pour expliquer et justifier le choix qui semble se confirmer ces temps-ci de la mise en place d'une Europe à plusieurs vitesses. Plusieurs pays, notamment à l'Ouest, semblent vouloir aller dans ce sens. François Hollande avait plaidé en début de semaine lors d'un mini-sommet à Versailles pour un système d'intégration différencié, mais pas question de mettre en place un nouveau rideau de fer, a voulu rassurer Jean-Claude Juncker. Le président de la Commission européenne s'adressait aux pays d'Europe centrale qui s'inquiètent de la tournure des événements. C'est le cas notamment de la Pologne, pays dont la première ministre Beata Szydło pense que cela compromettrait l'intégrité de l'Union. Des déclarations surprenantes pour Joanna Nowicki, universitaire franco-polonaise. Elle estime que cette déclaration de la première ministre polonaise est en contradiction avec le positionnement affiché jusqu'alors par le pays.
C'est en effet très paradoxal parce que ce gouvernement a tout fait pour décourager les Polonais du goût pour l'Europe. C'est un gouvernement anti-européen, eurosceptique. Dire qu'il est opposé est très contradictoire avec toute la ligne qu'il a défendue jusqu'à présent. Quand ce gouvernement est arrivé au pouvoir, le mot d'ordre était « la Pologne est en ruine », alors que tout le monde pouvait constater les grands succès économiques et du développement de la démocratie dans ce pays. En partie, le développement de la Pologne venait de l'appartenance à l'Union européenne. Donc, lorsqu'elle constate maintenant le risque pour la Pologne de l'éloignement de l'Europe et du marché européen, elle prend peur. Et c'est normal qu'elle constate les dangers venant de ce discours populiste et nationaliste que ne partagent pas 70% des Polonais. Donc, peut-être qu'elle adapte son discours à la population qui est pro-européenne. Il faut bien faire la part des choses entre gouvernement et population. Parce que malgré le vote que beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui, mais qui s'est fait dans les règles démocratiques, évidemment, la majorité des Polonais partagent le sentiment européen fort et ne partagent pas cette politique anti-européenne.
Des propos recueillis par Ilan Malka. Le déblocage de sites internet censurés dans certains pays est en passe de devenir une activité régulière de Reporters sans frontières depuis 2015, l'ONG opère en effet en direction de pays qu'elle qualifie d'ennemis d'Internet. Et sa dernière action en date en concerne 5, la Turquie, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Autant de pays dans lesquels Reporters sans frontières annonce avoir débloqué ces jours-ci 5 sites d'information jusqu'alors censurés, notamment le site Özgürüz, nouveau site d'un journaliste exilé à Berlin, un journaliste turc exilé à Berlin. Christophe Deloire est le secrétaire général de Reporters sans frontières.
C'est une opération que Reporters sans frontières mène pour la troisième année. Elle consiste à débloquer des sites qui sont censurés dans les pays concernés, 22 pays en tout. Et ce que nous faisons, nous, c'est grâce à une technologie innovante, nous faisons en sorte que, sur place, les citoyens qui veulent avoir accès à ces informations puissent trouver un site miroir, c'est-à-dire la duplication du site, grâce à un système qui est astucieux et qui consiste à dupliquer ces sites sur les serveurs de grandes sociétés du web. De grandes sociétés du web dont les pays concernés, dont les gouvernements ne peuvent pas se passer. Aucun pays aujourd'hui ne peut se permettre de supprimer Google, de supprimer Amazon, d'en supprimer quelques autres. Et donc, lorsque nos sites miroirs sont positionnés sur ces serveurs, ils demeurent à une autre adresse évidemment, mais il demeure visible depuis ces pays. Et donc, grâce à cette astuce technologique, grâce à une petite application qui permet, lorsque des sites sont censurés, de voir que l'on peut avoir accès à des sites miroirs, on permet à des milliers, des centaines de milliers de citoyens de ces pays d'avoir accès à une information à laquelle, normalement, sans cette opération Collateral Freedom de RSF, ils n'ont pas accès.
Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, répondait aux questions de Lise Verbeck. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris sur les dérives constatées récemment dans le fonctionnement de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. C'est une information du service enquête de Radio France que nous retrouvons comme chaque vendredi soir. Bonsoir Laetitia Saavedra.
Bonsoir Benoît.
Il y a un mois, sortait un rapport de la Cour des comptes pointant un certain nombre de dérives au sein de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Et au-delà de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, vous nous révélez ce soir, Laetitia, qu'une plainte contre X a été déposée.
Oui, un collectif de dentistes a décidé de porter l'affaire en justice. Ces praticiens en colère dénoncent les dérives de l'ordre pointées par la Cour des comptes. On écoute leur avocat Philippe Rudière-Bessis. Il est en litige depuis plusieurs années avec le Conseil de l'ordre.
J'ai déposé une plainte contre X pour détournement d'argent public, abus de confiance. Il faut savoir être moins dispendieux et plus utile pour la collectivité.
Alors parmi les dysfonctionnements pointés par la Cour des comptes, une gestion opaque, des voyages et des cadeaux de luxe offerts à certains membres de l'ordre et à leurs familles, le tout payé avec les cotisations des dentistes.
Et parmi ces cadeaux, Laetitia, il y en a un assez spectaculaire qui a été déniché par la Cour des comptes.
Oui, c'est une montre de femme sertie de diamants d'une marque de prestige et d'une valeur de 2200 euros.
Et cette montre sertie de diamants, vous l'avez retrouvée et vous savez à qui elle a été offerte?
Oui, je l'ai retrouvée au conseil départemental des Alpes-Maritimes à Nice. Elle est sertie de 59 diamants, petits certes, mais des diamants, c'est écrit sur la notice. Cette montre a été offerte à une secrétaire de l'ordre des Alpes-Maritimes pour ses 30 ans de bons et loyaux services. Olivier Comte, le président de l'ordre, explique que sur les 2200 euros de ce cadeau, un peu plus de la moitié ont été payés sur les fonds de l'ordre, le reste par les membres de l'ordre sur leur argent personnel. Il ne voit donc pas où est le problème.
Peut-être. Si on se base d'un point de vue Cour des comptes, dure loi, on peut-être nous en faire le reproche, mais dans le cadre de la gestion en bon père de famille d'un conseil de l'ordre, il n'y a rigoureusement rien qui puisse nous être reproché.
Des questions se posent aussi, Laetitia Saavedra, sur le travail effectué par des membres de certains ordres et sur les indemnités qui vont avec.
Oui, comme cette indemnité versée à un membre du Conseil des Pays de la Loire en 2014 parce qu'il avait assisté au pot de départ d'un salarié de l'Agence régionale de santé. Ou encore cette indemnité pour une participation à une manifestation organisée par un syndicat dentaire. Autant d'exemples qui ont fait tiquer Patrick Lefa, le magistrat qui a coordonné le rapport de la Cour des comptes.
Qu'un conseiller de l'ordre se fasse payer pour participer à une manifestation, c'est pour le moins étonnant, mais on trouve d'autres cas de figure, par exemple la participation à un goûter d'enfants pour Noël. Payer une indemnité pour ce type de manifestation, ça paraît là aussi tout à fait curieux.
Selon nos informations, une indemnité spécifique de goûter a été versée à un membre de l'Ordre national à deux reprises, en 2011 et en 2014, ce que conteste son président Gilbert Bouteille.
Alors ce n'est pas tout, Laetitia, vous avez également eu vent de l'existence de logements de fonction tout frais payés.
Oui, des logements près de la très chic avenue Foch à Paris. Ils sont normalement destinés aux membres du bureau de l'Ordre national qui habitent en région et qui viennent à Paris deux fois par semaine. L'ordre paye intégralement les charges. Il y en a tout de même pour 100 000 euros par an, frais de pressing compris. Le problème, c'est que ces appartements ont aussi été attribués à des conseillers qui habitent Paris et la région parisienne. Un ancien membre du bureau de l'Ordre national connaît bien ces logements. Il tient à rester anonyme.
Il y a quelques studios, mais aussi des appartements plus grands, sachant que l'appartement du président est en étage et bénéficie d'une belle terrasse. Ils sont en général aussi meublés aux frais du Conseil national. Je me souviens très bien d'un magnifique lit roche-beaubois à 3500 euros qui a été acheté pour meubler une de ses chambres.
Alors que dit le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes face à ces dérives, Laetitia ?
Bien, même s'il ne partage pas tous les constats de la Cour des comptes, le président de l'Ordre national, Gilbert Bouteille, annonce qu'une réforme de l'Ordre est à l'étude. En attendant, le président d'un ordre local a déjà été prié de démissionner.
Merci beaucoup Laetitia Saavedra pour cette enquête. Un temps plutôt doux et ensoleillé demain d'après les prévisions de Météo France, avant le retour d'une nouvelle perturbation en soirée et dans la nuit prochaine. Quelques gelées sont possibles localement demain au lever du jour. Température minimale de 2 à 10 degrés. Dans l'après-midi, on attend de 13 à 19 degrés sur la moitié nord du pays, de 17 à 25 au sud.